Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un événement de la Bible que je trouve fascinant. La Bible regorge d'événements fascinants, et Dieu les a placés là pour avoir un impact considérable sur tous ceux qui la lisent, en particulier ceux qu'il a appelés. Dieu utilise ces événements fascinants d'une manière très particulière. L'une des choses qu'il souhaite accomplir, parce qu'il cherche à se reproduire, c'est de transformer, par sa gloire et sa sagesse, les personnes qu'il a appelées. Il utilise ces événements fascinants, pour y parvenir. Nous pouvons tirer des leçons de ces événements fascinants et appliquer ce que nous avons appris pour nous transformer en la personne que Dieu nous a appelés à être. Celui que nous allons examiner ne fait pas exception. Passons à Exode 16 pour commencer tout de suite. Exode 16. Je suis sûr que vous pouvez penser à de nombreux événements fascinants qui sont détaillés dans les Écritures. Lequel vais-je choisir aujourd'hui pour l'examiner et en tirer des leçons? Exode 16, et nous allons passer directement au verset 32. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Remplissez-en un omer pour le conserver à vos générations, afin qu'elles voient le pain dont je vous ai nourri dans le désert, lorsque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Moïse dit à Aaron, prends un pot, mets-y un omer de manne, et dépose-le devant le Seigneur pour le conserver à vos générations. Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage pour le conserver. Monsieur Hook, est-ce là l'événement biblique fascinant? Vraiment. Oui. Vraiment. Inutile de lever la main, mais combien d'entre vous trouvent au moins un peu intéressant que Dieu ait demandé à Aaron de remplir un omer de manne pour que les générations futures puissent le voir? Imaginez maintenant que vos parents vous disent, les enfants, nous partons en excursion. Vous demandez, oh là là, Disney World? Non, mes enfants, j'ai dit une excursion touristique. Et cela pourrait être le mont Rushmore? Non. Le Grand Canyon? Allons à Rome voir l'une des sept merveilles du monde, le Colisée. Et la Grande Muraille de Chine? C'est là qu'on va, maman et papa? Le Taj Mahal? Petra? Petra, Big Ben, la grande barrière de corail, le mont Everest. Vous arrivez, il n'y a pas grand-chose à voir. Vous vous approchez, vous vous rassemblez en cercle et vous vous retrouvez devant un pot d'environ 2 litres et demi rempli de petits morceaux de pain rond. C'est tout. Maman, papa, c'est tout? C'est excitant. C'est incroyable. Vous ne voyez pas? Je dirais que contempler un pot de manne, mes frères, n'est peut-être pas très impressionnant en soi, mais l'histoire qui se cache derrière et les leçons que l'on peut tirer de ce pain pourraient bien vous émerveiller aujourd'hui, mes frères. Émerveillés par la sagesse et la grandeur dont Dieu fait preuve en essayant de transformer chacun d'entre nous. Pour cela, examinons ce que je considère comme certaines des instructions les plus importantes que Dieu ait jamais données à son peuple. Regardons le verset 1. Passons directement au verset 1. Ils partirent d'Élim, et toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois. Cela fait seulement un mois qu'ils ont quitté le pays d'Égypte. Un mois seulement. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Cela ne fait que 30 jours qu'ils ont commencé leur voyage, et ils se plaignaient déjà. Maintenant, quand je m'assois et que je réfléchis à cela, et que je relis tout le récit, et encore une fois, cela fait partie de l'événement fascinant que nous examinons, ce n'est pas tout à fait déraisonnable si vous y réfléchissez bien. Combien de temps pensez-vous que les provisions qu'ils ont apportées d'Égypte auraient pu durer? Environ un mois, semble-t-il. Peut-être pensait-il que Dieu leur aurait donné la terre qu'il avait promise à leur père et Abraham à ce moment-là. Car selon tous les récits, il faut environ 11 jours pour aller des, où ils se trouvaient en Égypte, à la terre promise, à pied. Or, cela fait 30 jours, et les provisions sont épuisées. Quiconque a voyagé avec des enfants, en particulier des enfants en bas âge, des enfants immatures, connaît bien cela. On est bientôt arrivé. J'ai entendu cette question 4 fois pendant notre voyage. Nous faisions des trajets de 10 heures pour aller en Géorgie ou en Floride, et, bien sûr, c'était toujours la même question. Les uns n'apprenaient pas des autres. Quand l'un s'ennuyait, il n'entendait pas la réponse donnée au premier qui avait posé la question. Il la posait quand même. « C'est encore loin ?» Je répondais, « Comme nous roulions vers le sud, regarde le soleil à ta gauche. Quand tu verras le soleil à ta droite, tu sauras que nous sommes presque arrivés. » Je devais utiliser toutes sortes de réponses, mais c'est normal avec les enfants. Troisième verset, les enfants d'Israël leur dirent, « Que Dieu nous donne, c'est une expression qui, si vous la regardez en anglais, signifie « Oh, que nous soyons morts par la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande et que nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » C'est ce que j'appellerai dans le langage spectaculaire moderne. Ils sont spectaculaires. Maintenant, ils étaient à court de nourriture. Avez-vous déjà entendu cela? Nous mourrons de faim. Mon fils, mes filles, vous ne savez pas ce que c'est que de mourir de faim. Vous n'en avez aucune idée. Quand allons-nous manger? Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais imaginez que vous disiez à vos parents, « Maman, papa, pourquoi ne m'avez-vous pas simplement tué à la maison au lieu de me laisser mourir de faim pendant ce voyage? » Je suis certain que cela n'aurait pas été très bien accueilli par mes parents. Dieu savait, mes frères, ils savaient très bien que les provisions qu'ils avaient emportées d'Égypte ne dureraient pas longtemps. Je crois qu'il les préparait à l'une des instructions les plus puissantes qu'il leur ait données. Continuons au verset 4. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir du pain du ciel pour vous, et le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire, c'est une quantité précise, chaque jour. » Voilà. L'une des instructions les plus puissantes que Dieu ait données à son peuple nouvellement libéré, qui voyage maintenant dans le désert vers une destination qu'il attend avec tant d'impatience, la terre promise. Les premières instructions que Dieu a données à Israël dans le désert au-delà de la mer Rouge concernaient la collecte du pain. Quoi? La collecte du pain? C'est tout. Comment ramasser du pain? Du dimanche au vendredi, qui est le jour de préparation, comme aiment à le dire mes filles, et nous y voilà. Aujourd'hui, mes frères, examinons les instructions de Dieu concernant la collecte et la consommation de la manne et tirons-en quelques leçons puissantes. Les gens qui nous regardent de l'extérieur peuvent considérer notre vie comme ordinaire, ennuyeuse, banale, ou tout autre adjectif qui vous vient à l'esprit. Ce n'est pas mon cas. Je ne considère pas ma vie de chrétien suivant ce mode de vie comme ordinaire, ennuyeuse ou banale. Nos journées, cependant, en tant que chrétiens, sont assez simples, et très honnêtement, elles devraient l'être. Ce n'est pas tous les jours qu'on célèbre la nouvelle lune. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait la fête le jour du sabbat en tant que chrétien. Ce n'est pas la fête des tabernacles ou un autre jour saint. Heureusement, nos journées ne se résument pas à des soirées du vendredi ou du samedi dans des bars, à des concerts ou à des événements sportifs. Pensez à notre vie après le baptême. Les jours, les semaines, les mois, Peut-être 40 ans après la traversée de la mer Rouge, après notre baptême dans le désert. Mes frères, même si notre vie au fil des jours, des semaines, des mois et des années peut être routinière et simple, elle n'est en aucun cas ordinaire, ennuyeuse ou banale. Examinons l'enseignement de Dieu dans la première leçon que nous pouvons en tirer. Continuons à lire ici, en poursuivant au verset 4. Le peuple sortira et ramassera chaque jour une certaine quantité, afin de prouver s'il marchera dans ma loi ou non. Une quantité précise de quoi chaque jour? Nous savons de quoi il s'agit. Verset 14. Quand la rosée eut disparu, voici qu'il y avait, à la surface du désert, une chose ronde et petite, comme du givre sur le sol. Quand je me suis levé ce matin, j'ai regardé dehors et j'ai trouvé cela inspirant, car c'était la première fois que je voyais du givre ici en été. C'était littéralement du givre sur le sol. Des taches blanches, petites par petites. J'ai trouvé cela étrange, car je n'avais jamais vu cela auparavant. C'était peut-être l'arrosage automatique, ou le vent qui soufflait, peu importe, mais j'ai trouvé cela inspirant de voir cela ce matin en me levant tôt. Voici la première leçon à tirer de ce petit passage de l'Écriture. Dieu utilise chaque jour de petites choses pour nous enseigner et tester notre obéissance afin de nous préparer à de plus grandes choses. Je répète. Dieu utilise chaque jour de petites choses pour nous enseigner et tester notre obéissance afin de nous préparer à de plus grandes choses. Si nous ne comprenons pas cela, mes frères, nous passons à côté de la grandeur et de la sagesse de Dieu, et de la manière dont il nous transforme en son bien le plus précieux. La manière dont il a voulu transformer Israël en son bien le plus précieux. Dieu utilise des instructions faciles à suivre pour distinguer ceux qui marcheront dans ses voies de ceux qui ne le feront pas. Regardez ce qui est dit ici. Le peuple sortira et ramassera chaque jour une certaine quantité, pour prouver s'ils marcheront dans ma loi ou non, et il ne l'avait pas encore donné. Christ a compris cela. Il a enseigné cette leçon fondamentale à ses disciples. Passons à Luc 16. Luc chapitre 16. Nous allons lire un seul verset ici. Il est dit ici, au verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. » Celui qui est injuste dans les petites choses est injuste aussi dans les grandes. Ce qui me frappe ici, c'est que Christ ne suppose pas, ne suggère pas ou ne dit pas peut-être. C'est une conclusion évidente, qu'il s'agisse d'Israël ou de nous. Si Israël n'a pas suivi les instructions simples concernant la collecte et la consommation de la manne, il n'y avait aucun moyen qu'il obéisse à la loi de Dieu. Vous vous souvenez des 9 mots célèbres que nous avons entendus récemment dans la série sur les prophéties? Juste 3 chapitres plus loin, dans Exode 19, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Vous avez lu le récit sur la manne. Il n'était même pas capable de ramasser correctement la manne. Il désobéissait à Dieu. Tout signifie tout, mes frères. Ce ne sont pas seulement les grandes choses qui nous effraient ou nous inquiètent, mais les petites choses quotidiennes sur lesquelles Dieu se concentre pour nous transformer petit à petit. Le sermonnette l'a bien expliqué. Si vous voulez accomplir quelque chose de grand, vous devez commencer par de petites choses. Christ était plus direct avec ses disciples. Si nous disons que nous serons fidèles à tous les commandements de Dieu, ce à quoi personne dans cette salle ne s'opposerait, nous ferions mieux de le montrer dans les petites choses simples de la vie quotidienne, mes frères. La plupart des épreuves que nous rencontrons dans les choses de Dieu sont répétitives. Elles sont petites, mais elles sont vitales, elles sont cruciales. Dieu a conçu de petites épreuves d'obéissance répétitive, si vous voulez, pour nous conditionner et nous préparer aux grandes épreuves qui surviennent de temps en temps. Je trouve cela brillant. Je trouve cela génial. Mon père disait souvent, « Mon fils, tu joueras comme tu t'entraînes. » Je l'ai répété maintes et maintes fois. Si nous pratiquons l'obéissance dans les petites choses, lorsque nous atteignons les séries éliminatoires, lorsque nous atteignons le match de championnat, notre esprit est déjà prêt à performer. Pensez au Christ dans le désert. Il a passé toute son enfance, son adolescence et sa jeunesse à s'entraîner jour après jour, à obéir à Dieu dans les petites choses, à la maison, à la synagogue, avec son père, avant de rencontrer 7 ans après 40 jours dans le désert. Ce sont les petites choses qui ont préparé Christ aux grandes choses, et pensez à ce qui en a découlé. Pensez à ce que nous pouvons apprendre de cela, mes frères. Quelles petites choses Dieu nous donne-t-il spécifiquement pour nous préparer, pour nous transformer? Avant d'examiner cela, avant de tirer des leçons de ces choses, je veux insister sur ce point. Je veux que vous le compreniez bien. Qu'est-ce qui aurait pu être plus grand que les 10 commandements pour transformer Israël en un trésor précieux? Rien. Pensez au Christ. Christ a dit, « Je suis venu pour accomplir la loi », et il l'a résumé. Les 4 premiers commandements, dit-il, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force », et il a résumé les 6 derniers commandements en disant, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il n'a pas diminué la loi, il l'a élargie. Il l'a augmentée. Rien n'aurait pu être plus grand. Dieu savait que ces commandements seraient inefficaces pour ceux qui ne seraient pas disposés à être fidèles dans les moindres détails. C'est ce qu'il dit ici, dans Luc chapitre 10. Ils devaient être formés à l'obéissance dans les petites choses afin d'être prêts à obéir dans les grandes. C'est aussi simple que cela. Dieu sait, à travers les petites choses, si nous serons obéissants ou non lorsque les choses sérieuses arriveront. Ce n'est pas un hasard si Dieu a organisé ce voyage de telle sorte que les provisions qu'ils avaient emportées d'Égypte s'épuisent 30 jours plus tard, car Dieu va leur enseigner des leçons puissantes que nous allons examiner. Je pense à ma vocation. J'ai toujours été, pour l'essentiel, celui qui subvenait aux besoins de ma famille. La plupart du temps, ma femme travaillait parce qu'elle le voulait, pas parce qu'elle le devait. Elle n'avait pas à se soucier des multiples maisons, des mensualités immobilières ou automobiles, des vacances ou de la nourriture quotidienne, semaine après semaine. Qu'y avait-il de mal à cela? La plupart des gens regardent cela du point de vue du monde et disent, de leur point de vue, « Bravo ! J'étais incapable d'apprendre. Je n'étais pas en mesure d'apprendre les leçons que Dieu allait m'enseigner à travers les petites choses. Nous devons comprendre cela, mes frères et sœurs. Si Dieu m'avait laissé venir à l'église, j'ai dit que malgré tout ce que j'avais, je n'aurais pas réussi. Pourquoi? Parce que je n'étais pas capable d'apprendre, même les petites choses. J'avais tout ce qu'il fallait. Mon mariage, mes enfants, la nourriture sur la table, un toit au-dessus de leur tête. En arrivant, j'aurais pensé que j'étais prêt à assumer les grandes choses de la vie selon Dieu. Cela ne pouvait pas être plus faux. J'ai dû le réaliser. Je l'ai déjà dit, et je ne veux pas entrer dans les détails, mais ma vie a inexplicablement atteint un point où Dieu a pu recommencer à m'enseigner à travers les petites choses. Après le baptême, aucun changement. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change jamais. Il continue à m'enseigner et à me tester chaque jour dans les petites choses, pour voir si je lui obéis ou non. Dieu a demandé à Israël de ramasser une certaine quantité de pain chaque jour avant de lui donner les 10 commandements. Peut-on faire plus grand? Avant cela, Dieu a dit, allez et ramassez chaque jour une certaine quantité de pain. Avant de leur donner les lois sur la restitution et l'administration de la justice, Dieu a dit, allez et ramassez chaque jour une quantité précise. Avant de donner à Israël des instructions sur les jours saints, la dîme, les offrandes, les viandes pures et impures, l'hygiène, les relations sexuelles, savez-vous ce qu'il a dit? Allez chaque jour et ramassez une quantité précise pour vous-même et votre famille. Avant de leur enseigner le blasphème, les punitions, les vœux, les devoirs lévitiques, les règles pour les rois, les limites de la propriété, avant d'établir les règles concernant la guerre, les meurtres non résolus, les héritages, le traitement des enfants rebelles, avant de leur parler et de leur donner des instructions sur le divorce et le mariage, Dieu leur a dit, sortez chaque jour et ramassez une certaine quantité. Aucun de ces éléments de la loi n'avait été donné, et je trouve cela étonnant, fascinant. Il aurait été presque inutile de leur donner à obéir s'ils n'avaient pas reçu des petites choses répétitives à respecter quotidiennement. Dieu les préparait à réussir dans les grandes choses en leur donnant des instructions sur les petites choses. Pensez à la parabole des talents. Christ a dit à celui qui avait reçu 5 talents et en avait produit 5 autres, bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Je te donnerai autorité sur beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Pensez à ce qui est en jeu dans ces quelques talents. La vie éternelle. La joie du Seigneur, la joie éternelle du Seigneur, c'est la vie éternelle, devenir un être divin. Quelle plus grande joie peut-on éprouver que d'être transformé aux yeux de Dieu, aux yeux de tous, en un être divin? Les petites choses ont autant d'importance que les grandes. Dieu mettra chaque jour à l'épreuve notre obéissance et notre fidélité. Dieu leur a donné une chose, pas beaucoup, pour prouver leur fidélité. Pour commencer à prouver qu'ils allaient être fidèles. Percevez un certain taux pour vous et votre maison, a-t-il dit. Peut-être que votre petite chose, mes frères, c'est l'argent, car je vous le dis, c'est une petite chose aux yeux de Dieu. L'argent que nous avons est une petite chose, quel qu'en soit le montant. Que vous en ayez un peu ou beaucoup, c'est peu pour Dieu, car c'est ce dont parle ce récit. C'est ce qui précède ce récit. Dieu vous enseignera et vous mettra à l'épreuve chaque jour avec l'argent, ce que nous appellerons le moindre de vos soucis, afin de déterminer si vous êtes apte à gérer les vraies richesses, qui sont beaucoup plus importantes. C'est ce qui est dit ici. Ce n'est peut-être pas de l'argent, mais peut-être avez-vous des talents ou des compétences, comme vous l'avez entendu précédemment. Quelques compétences ou talents, peut-être une seule compétence ou un seul talent. Peu importe. Dieu vous les a donnés. Nous allons examiner cela. Il nous enseignera et nous mettra à l'épreuve quotidiennement sur ces choses, mes frères. Serons-nous dignes de recevoir des talents infinis pour diriger des villes? Premier épître de Pierre, chapitre 4. Premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. Comme chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, comme de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu. Si quelqu'un parle, cela peut faire référence principalement au ministère, mais cela peut aussi faire référence à la façon dont nous nous parlons les uns aux autres, parle comme les oracles de Dieu. Si vous donnez un conseil à vos frères et sœurs, que vous connaissez les principes de Dieu, qu'ils ont besoin de votre aide et que cela ne dépasse pas vos compétences, parlez comme un oracle de Dieu. Parlez comme quelqu'un qui connaît les principes de Dieu. Si cela dépasse vos compétences, confiez-le au ministre. Ministre, parler comme des oracles de Dieu. Nous avons tous reçu ce don. Si quelqu'un parle, qu'il parle comme les oracles de Dieu. Si quelqu'un exerce le ministère, c'est-à-dire diaconé, pour servir les besoins physiques, qu'il le fasse selon la capacité que Dieu lui donne, afin que Dieu soit glorifié en toutes choses par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Dieu donne au moins un don à chacun d'entre nous, et je suis certain qu'il nous donne plus d'un don, pour voir si nous obéirons et utiliserons les petites choses pour aider les autres. Il est dit, en toutes choses, glorifiez Dieu. Réfléchissez-y. Les Israélites auraient glorifié Dieu tout autant en suivant de simples instructions qu'en obéissant à ses lois et à ses commandements. En toutes choses, ils doivent glorifier Dieu, dans les petites choses comme dans les grandes. Romains chapitre 12, verset 3, car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, à chacun d'entre vous, de ne pas penser plus haut de soi qu'il ne faut penser, mais de penser avec sobriété, selon la mesure de la foi qui a été donnée à chacun. Pensez à distribuer des cartes ou à distribuer des dons, à chacun selon la mesure de la foi. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, les mêmes devoirs, les mêmes responsabilités, mais que nous avons tous des responsabilités dans le corps du Christ, ainsi nous, qui sommes nombreux, nous formons un seul corps en Christ. Le contexte est le corps tout entier, pas seulement une partie de celui-ci, pas seulement le ministère, et les membres les uns des autres. Ayant donc des dons différents, verset 6, selon la grâce qui nous a été donnée, donnée à vous, ce verset devrait s'adresser à chacun d'entre nous, que ce soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Ou le ministère, attendons notre ministère. Ou celui qui enseigne, enseigne. Ou celui qui exhorte, exhorte. Celui qui donne, vous n'avez pas besoin d'être ministre pour donner. Vous n'avez pas besoin d'être ministre pour encourager, ou exhorter quelqu'un. Qu'il le fasse avec simplicité. Celui qui dirige, supervise quelque chose avec diligence. Celui qui fait miséricorde, avec joie. J'ai dit à plusieurs reprises, et vous l'avez entendu récemment, que Dieu donne des instructions sur la manière de faire ce qu'il nous commande, pas seulement ce qu'il faut faire, mais comment le faire. Regardez cela. Il ne laisse aucun de nous dans le doute sur les petites choses. Celle qui cuisine pour un repas partage ou pour ceux qui sont dans le besoin, le fera-t-elle avec joie et selon la capacité que Dieu lui donne, ni plus, ni moins? N'en faites pas trop, tout avec modération. Celui qui apporte quelque chose pour le repas, l'apportera-t-il avec joie, selon les capacités que Dieu lui a données, ni plus, ni moins? Dieu ne demande pas plus que ce que vous pouvez supporter, mais il ne demande pas moins non plus. Chacun a une part qui lui revient, conformément aux instructions données pour la collecte quotidienne de la manne. Celui qui aide à la mise en place le fera-t-il avec empressement, selon les capacités que Dieu lui a données? Celle qui reste ou aide à la cuisine le fera-t-elle avec diligence, en dirigeant le groupe ou en le supervisant? Le fera-t-elle avec diligence, douceur et gentillesse, selon les capacités que Dieu lui a données, ni plus, ni moins? Participerons-nous à tous les événements de l'Église, plutôt que de nous acharner sur les activités de la fête? La journée familiale, le déjeuner des seniors, tout le monde n'y a pas droit. Le premier jour, le dernier jour, le déjeuner. Frères et sœurs, y participons-nous? Le softball, les activités sociales, le jardin communautaire, sans parler des études bibliques et des nouvelles lunes. Le faisons-nous avec diligence, comme il est écrit ici? Si on vous confie une tâche au travail, la faites-vous avec joie, avec diligence et en y mettant toute votre énergie, en montrant l'exemple à vos collègues. À la maison, vous donnez-vous sans compter, en laissant votre vie rayonner. Pas seulement votre vie, mais votre vie. Laissez votre vie rayonner. Toutes ces choses quotidiennes peuvent sembler insignifiantes aux yeux du monde, mais nous savons, mes frères, que toutes ces petites choses nous préparent à quelque chose d'indescriptible, de plus grand, de plus important. C'est la première leçon. Dieu utilise chaque jour de petites choses pour nous enseigner et tester notre obéissance, afin de nous préparer à de plus grandes choses. Passons à la deuxième leçon. Revenons au chapitre 16 de l'Exode. Nous remontons un peu en arrière. Exode 16, lisons simplement le verset 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Ils ne se contentaient pas de ramasser la manne de la même manière, jour après jour, du dimanche au jour de préparation. Ils mangèrent la manne pendant 40 ans. C'est un point important, mes frères. Dieu a conçu notre corps pour être nourri quotidiennement. Y avez-vous déjà pensé? Dieu aurait pu concevoir notre corps pour être nourri une fois tous les 40 jours, ou toutes les 40 semaines, ou tous les 40 mois, ou même tous les 40 ans. Dieu peut tout concevoir. S'il nous avait conçus pour 40 jours, quelle aurait été l'épreuve après la sortie du désert, après 40 jours sans manger et 40 jours et 40 nuits sans boire? Christ. Dieu a conçu notre corps pour être nourri chaque jour. Chaque jour, Israël devait manger. Ils ont mangé la même chose pendant 40 ans. La manne. Jour après jour. Matin, midi et soir. Trois repas par jour. Maintenant, je comprends. Vous pensez peut-être que je ne comprends pas, mais je comprends. J'ai vécu en République dominicaine. Je sais que je l'ai déjà dit, mais j'y ai vécu pendant 11 ans. Je plaisantais souvent avec les gens, et je le fais encore, en disant que j'avais vécu l'une des expériences culinaires les plus extraordinairement variées qu'un jeune de 21 ou 22 ans puisse avoir. Par exemple, je pouvais manger du riz, des haricots et du poulet lors de ce que j'appelais un dimanche simple. Les lundis magnifiques, cela, c'était autre chose. Je dînais de haricots, de poulet et de riz. Puis venait le mardi fantastique. Quel régal! Un buffet de poulet, de riz et de haricots. Et puis il y avait le mercredi sauvage, mes amis. C'est là que nous devenions vraiment fous. Des tranches de bœuf, pas de poulet. Et avec quoi? Du riz accompagné de haricots. Mes frères, pensez à nos frères et sœurs en Christ en Afrique, qui mangent probablement la même chose tous les jours. C'est peut-être tout ce qu'ils ont dans cette région du monde. C'est peut-être tout ce qu'ils peuvent se permettre. Et nos frères et sœurs d'Asie, de Polynésie française, des Philippines, ils mangent probablement chaque jour une sélection limitée et restreinte d'aliments. Ceux qui vivent en Amérique du Sud, au Pérou, au Mexique, dans les Caraïbes mangent des aliments similaires à ceux que je mangeais tous les jours en République dominicaine. Ces frères et sœurs de ces pays sont conscients, peut-être plus que nous, dans ces nations israélites où nous vivons pour la plupart, de la deuxième leçon. La leçon numéro 2. Dieu utilise de petites choses, des choses apparemment ordinaires, comme nous nourrir chaque jour, pour nous apprendre à compter sur lui. Que notre confiance repose entièrement sur Dieu. Dieu veut que nous comptions sur lui dans tous les domaines de notre vie, à commencer par chaque fois que nous regardons notre assiette. Peu importe le nombre de fois que vous regardez le riz, les haricots et le poulet, ou le poulet, les haricots et le riz, ou les haricots, le riz et le poulet. Alors que d'autres considèrent manger et boire comme une routine, nous voyons notre nourriture et notre boisson quotidienne comme la preuve que notre Dieu prend soin de nous. J'ai fait un rapide calcul. J'ai calculé que ma belle-mère, qui est très bonne cuisinière, a préparé à son mari, à ses enfants et à ses petits-enfants plus de 20 000 assiettes de riz, de haricots et de poulet au cours de son mariage. Je peux vous dire qu'elle s'y prend très bien. Vous ne vous attendiez pas à ce que je dise autre chose, car elle fait partie de l'église et je dois continuer à manger quand je lui rends visite. Savez-vous ce qu'elle comprend? Elle comprend qu'elle compte sur Dieu, non seulement pour ses talents culinaires et sa capacité à cuisiner chaque jour ce riz, ses haricots et ce poulet, mais aussi pour son mariage, pour être une mère pour ses enfants désormais adultes, pour être une grand-mère et pour être une sœur en Christ pour vous tous. Ce sont juste les petites choses qui nous apprennent à compter sur Dieu pour tout. Matthieu chapitre 6. Revenons à ce que Christ a dit. Matthieu 6. On lit souvent ces versets sans voir les leçons importantes qu'on peut en tirer. Matthieu chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Pourquoi ferions-nous cela? Pourquoi voudrais-je voir un oiseau voler au-dessus de ma tête, ou percher dans un nid, ou se battre pour notre mangeoire? Pourquoi? Pourquoi contemplons-nous les oiseaux? Pourquoi Christ dit-il cela à ses disciples? Je veux dire, c'est le deuxième membre de la famille divine qui donne des conseils sur l'observation des oiseaux. C'est simple. Pourquoi? Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent rien en grange, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? J'espère que vous avez répondu oui en silence à cette question rhétorique. Je ne veux pas dire que nous sommes meilleurs que les anciens Israélites, mais je dirais certainement ceci, mes frères, nous sommes mieux lotis qu'eux. Nous n'avons pas besoin de manger la manne pour en tirer des leçons. L'une des façons dont Dieu se révèle comme notre Père est qu'il nous nourrit. Il nous nourrit physiquement chaque jour. C'est aussi simple que cela. Il nous donne des instructions sur la façon dont nous devons manger. Ce qui est pur et ce qui est impur. Tout avec modération. Nous devons être un exemple d'obéissance, même dans les petites choses que nous faisons, dans notre alimentation. Dieu nous observe. Mes frères, pensez-vous que ce soit un détail insignifiant? Non. Dieu nous observe dans les petites choses, car elles révèlent les grandes choses. Deutéronome 29. Voici le problème. Deutéronome 29. Les Israélites n'avaient ni le cœur, ni les yeux, ni les oreilles pour comprendre ce que nous, mes frères, pouvons comprendre. Deutéronome 29. Verset 2. Moïse appela tout Israël, c'est le verset 2. Deutéronome 29. Et dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux en Égypte, à Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout son pays. Vos yeux ont vu les grandes tentations, les signes et ces grands miracles, mais l'Éternel n'a pas donné à votre cœur de comprendre, à vos yeux de voir, ni à vos oreilles d'entendre jusqu'à ce jour. Je vous ai conduit 40 ans dans le désert. Voici ce qu'il dit, « Regardez, vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et vos chaussures ne se sont pas usées à vos pieds. » Moïse arrive à la fin de son voyage, il rassemble Israël, prononce les dernières paroles d'un puissant homme de Dieu, et il leur dit de regarder leur corps et leurs pieds. Il a rassemblé Israël pour lui rappeler les miracles et la loi. Mais il voulait aussi qu'il prenne conscience des choses apparemment ordinaires que Dieu a faites pour lui apprendre à compter sur lui à chaque étape de son chemin pendant 40 ans. Moïse a dû leur montrer l'évidence. La preuve que Dieu était leur Seigneur était littéralement sur leur corps et attachée à leurs pieds. Moïse dit au peuple d'Israël qu'il n'avait ni le cœur, ni les yeux, ni les oreilles pour percevoir, voir ou entendre elle, et encore moins pour s'en soucier ou en être reconnaissant. Passons à Deutéronome 8. Deutéronome 8, verset 2. Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ses commandements qu'elle mise en scène ou non. C'est exactement ce qu'il a fait pendant 40 ans. Comment a-t-il fait? Voici les mots suivants. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne. C'est ainsi qu'il les a mis à l'épreuve et les a préparés à obéir à ses commandements et à ses lois afin de les éprouver. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ces mots vous semblent familiers, n'est-ce pas? C'est l'une des réponses que Christ a données à Satan lorsqu'il a tenté de changer les pierres en pain, car vous savez qu'il avait faim. Verset 4. Vos vêtements ne se sont pas usés et vos pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 années. Les pieds enflés. Dieu a même pris soin de leurs pieds au quotidien. Vous savez quoi? 2200. Laissez-moi vous donner ce chiffre. Qu'en pensez-vous? C'est une estimation prudente, mes amis, du nombre de kilomètres qu'ils ont parcourus en 40 ans. Moïse, Caleb, Josué, Aaron. 2200 kilomètres. Cela équivaut à 40 ans, à pied, de Woodsworth à San Diego, en Californie. Pas une sandale cassée, pas un vêtement usé, pas un pied enflé. Rien que d'y penser, cela fait mal. Laissez-moi vous dire qu'il ne faisait pas toujours chaud en Israël, dans le désert. Il pouvait faire froid. Ils étaient également soumis à des températures extrêmes. Savez-vous ce que Dieu leur enseignait? À compter sur lui chaque jour, à chaque pas. Chaque Israélite pouvait littéralement regarder ses sandales intactes et ses pieds non enflés et se rappeler que Dieu était présent à chaque pas. Mes frères, combien plus pouvons-nous le faire? Ce n'est peut-être pas aussi spectaculaire, mais Dieu nous a donné son esprit. Il nous a donné des yeux, un cœur et des oreilles pour percevoir, voir et entendre comment Dieu veut que nous comptions sur lui chaque jour. L'apôtre Paul comprenait cela très bien. Passons au chapitre 4 de l'épître aux Philippiens. Philippiens 4. C'est un verset familier, mais vous le verrez peut-être d'une manière différente, ou plus profondément, ou plus largement. L'apôtre Paul comprenait la puissance des instructions quotidiennes tirées de ces petites choses ordinaires de sa vie. Lisons ce qu'il dit au verset 13. « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Combien d'entre nous ont mémorisé ce verset? Oh, vous parlez sûrement de choses spirituelles, n'est-ce pas? Regardons le verset qui précède. Verset 10. « Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur, car enfin votre sollicitude pour moi s'est réveillée. » Ce n'est certainement pas spirituel, ou alors c'est l'inverse. Les frères ne prenaient pas soin de lui spirituellement, c'était lui qui le faisait. Ils étaient appelés à prendre soin de l'apôtre et de ses besoins physiques. Il parle manifestement de choses physiques, et il évoque ses besoins physiques quotidiens, pas seulement occasionnels. Vous vous en êtes bien soucié, mais vous n'en avez pas eu l'occasion. Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quoi que ce soit, car j'ai appris. Oh, j'ai appris, trois des mots les plus puissants que quiconque suivant le chemin de Dieu puisse prononcer. Trois des mots les plus puissants. J'ai appris. En toutes circonstances, je suis content. Je sais vivre dans la pauvreté, Je sais vivre dans l'abondance. En d'autres termes, je sais comment avoir peu d'argent, et je sais comment avoir beaucoup d'argent. Partout et en toutes choses, je suis instruit. Il y a trois autres mots puissants, j'ai appris et j'ai été instruit. Mes frères, c'est ainsi que devrait être notre vie quotidienne. Nous devrions apprendre chaque jour à compter de plus en plus sur Dieu dans tous les domaines de notre vie. La nourriture n'est qu'un exemple très simple, mais si nous ne voyons même pas Dieu et notre dépendance envers lui dans ce domaine, comment pourrons-nous voir notre dépendance dans des choses plus importantes? Il poursuit en disant d'être rassasié et d'avoir faim, d'être dans l'abondance et d'être dans le besoin. Personne ne peut me convaincre du contraire. L'apôtre Paul ne comprenait pas les parallèles entre son parcours et celui d'Israël. Vous ne pouvez pas me convaincre qu'il ne les comprenait pas. Il n'a pas tiré les leçons de la manne, des expériences et des enseignements que Dieu voulait lui donner à ce sujet. Par où commencer si nous voulons acquérir l'état d'esprit et la force d'âme dont Paul avait besoin pour accomplir toutes choses? Je peux tout faire grâce au Christ qui me fortifie. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. Je reviens souvent à cette prière modèle. Verset 10. Des mots puissants. Que ton règne vienne. Nous le prions chaque jour. Nous le voulons chaque jour. Nous sommes dans la septième ère. Cela devrait être dans nos pensées et au premier plan de nos pensées jour après jour, n'est-ce pas? Oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu. Nous voulons la faire, mes frères. Numéro 2. Quelle est la troisième chose dans la prière modèle? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Limitez notre demande à nous donner aujourd'hui notre pain quotidien, réfléchissez-y, exprime notre confiance en Dieu aujourd'hui. Pour nous, une assiette de nourriture, même si ce sont des petits pois ou des haricots de Lima, ou un panier repas rempli de légumes, lorsque vous êtes au travail ou à l'école, mes frères, est une réponse à notre prière et à notre confiance en Dieu. Leçon numéro 2. Dieu utilise de petites choses, des choses apparemment ordinaires comme nous nourrir chaque jour, pour nous apprendre à compter sur lui dans tous les domaines. Si vous apprenez à compter sur Dieu dans ces petites choses, vous apprendrez, comme ma belle-mère l'apprend et continuera d'apprendre, à compter sur lui dans votre mariage, que votre conjoint soit converti ou non, ou même dans l'église. Votre confiance en Dieu pour vous guider et vous donner la sagesse dans l'éducation de vos enfants, dans vos relations, vos amitiés, au travail. Notre confiance repose entièrement sur Dieu. Passons à un verset que nous connaissons tous très bien, et j'aimerais examiner ce verset juste après celui que nous connaissons pour passer à la leçon numéro 3. Verset 33. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Un autre verset à mémoriser. Puissant. Nous devrions le connaître par cœur. La plupart d'entre nous le connaissent par cœur. Combien d'entre vous considèrent cela comme un commandement? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Combien d'entre nous obéissent à ce commandement? Savez-vous comment le prouver à Dieu? Savez-vous comment vous prouver à vous-même que vous obéissez à ce commandement? Ne cherchez pas ailleurs dans la Bible. Savez-vous ce qui nous empêche de rechercher chaque jour le royaume de Dieu et sa justice? Voici un conseil que donne Christ, au verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Voici la leçon numéro 3, qui est intrinsèquement liée à la leçon numéro 2 sur le fait de compter sur Dieu aujourd'hui. Dieu utilise de petites choses pour nous apprendre à lui faire confiance pour demain. La différence est peut-être subtile, mais il y a une différence entre compter sur Dieu et faire confiance à Dieu. Je le vois ainsi. Vous le voyez peut-être différemment. Je compte sur Dieu aujourd'hui, tout comme Paul comptait chaque jour sur Dieu. Il faisait confiance à Dieu pour demain. Qu'est-ce que cela lui permettait de faire? Cherchez d'abord le royaume de Dieu aujourd'hui et sa justice aujourd'hui, car il laissait cela entre les mains de Dieu pour demain. Nous planifions constamment, mes frères. Nous planifions les choses des jours, des semaines, des mois à l'avance. Il n'y a rien de mal à planifier ou à prévoir. Ce n'est pas ce dont je parle. Israël avait un esprit charnel. Ils étaient autonomes. Ils étaient cupides. C'était un peuple sans foi. Ils refusaient de s'en remettre à Dieu pour leurs besoins présents, ils voulaient plus que ce dont ils avaient besoin et ne faisaient pas confiance à Dieu pour leur avenir. Vous l'avez vu. Quand il a dit, ne sortez pas le jour du sabbat pour ramasser la manne, car il n'y en aura pas, qu'ont-ils fait? Ils sont sortis le jour du sabbat pour essayer de trouver de la manne, et devinez ce qu'ils ont trouvé? Rien. Il leur a dit, ne laissez pas de reste. Je n'ai rien contre les restes, mais il a dit, ne laissez pas de reste. Faites-moi confiance pour demain. La manne sera là demain, et qu'ont-ils fait? Ils ont laissé des restes, qui ont pourri et se sont transformés en vers. Il y avait des vers. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Une fois de plus, Dieu a dit, ne gardez pas cela pendant la nuit, mais certains en ont fait des réserves. Dieu a dit qu'ils seraient bien le jour du sabbat et ses jours saints, et que s'ils allaient à la fête, s'ils obéissaient, s'ils obéissaient simplement, peu importe ce que disait leur patron, ils devaient lui obéir. Ils devaient lui faire confiance pour le lendemain. Pour être tout à fait honnête, ma femme et moi stockons des provisions dans notre réfrigérateur, dans notre congélateur, dans notre garde-manger, et nous gardons les restes. Nous mangeons les restes, mais c'est pour des raisons pratiques. Si je devais retourner à l'époque où je vivais en République dominicaine, où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait rien à mettre dans le réfrigérateur, et où nous devions nous demander si nous allions manger avec 3 dollars par jour, jour après jour, je recommencerais, parce que j'ai survécu. Les gens ne prient pas, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et Dieu les nourrit quand même. À combien plus forte raison nous? Dieu nourrit les oiseaux chaque jour. À combien plus forte raison nous? Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu pour demain, et pour après-demain, et pour tous les jours qui suivront. Nous faisons des projets, mais nous devons faire confiance à Dieu. Ésaïe 26, et voici l'avantage que cela procure. Ésaïe 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi, car il se confie en toi. Confie-toi en l'Éternel à jamais. Je n'ai pas besoin de lire beaucoup de versets pour qu'ils aient un impact puissant, les leçons qui nous ramènent à la manne. La confiance et la dépendance vont de pair. Si vous apprenez à compter sur Dieu chaque jour comme l'apôtre Paul l'a fait, que ce soit dans les moments de pénurie ou de difficulté, vous ferez confiance à Dieu. Si vous faites confiance à Dieu, Dieu ne vous décevra pas lorsque vous compterez sur lui aujourd'hui. Ils vont de pair. Si vous apprenez à faire confiance à Dieu quelle que soit la situation, votre confiance en Dieu ne faiblira pas. Elle se renforcera et vous aurez, comme il est dit, une paix parfaite. Pas seulement la paix, mais une paix parfaite. Vous pouvez maintenant imaginer Paul assis, avec une chaîne aux pieds, sans se faire de soucis. C'était une épreuve, et il avait reçu des instructions à ce sujet. Il en a tiré des leçons, Mais c'était une épreuve et une instruction pour les personnes qui sont finalement venues à son secours et ont pourvu à ses besoins physiques au bon moment, lorsque l'occasion s'est présentée. Voici une autre leçon. Regardons trois passages de l'Écriture. Revenons à Exode 16. Voyons rapidement quelques passages. Exode 16, verset 31. La maison d'Israël donna à cette manne le nom de manne. Ce sont eux qui l'ont appelé manne. Dieu l'appelait le pain du ciel. C'était comme des graines de coriandre, blanc, et son goût était comme celui de gaufrettes au miel. Des gaufrettes au miel? Réfléchissez-y. Servez cela après un repas partage, et je passerai directement au dessert. Des gaufrettes au miel, faites par Dieu. Réfléchissez-y un instant. Allez à Nombre 11. Regardons un instant la description de la manne. Nombre chapitre 11, verset 7. La manne était comme des graines de coriandre, et sa couleur était comme celle du nalium. C'est une perle. Le peuple allait la ramasser, la broyait dans des moulins ou la pilait dans des mortiers, la cuisait dans des poêles et en faisait des gâteaux, et elle avait le goût d'huile fraîche. Donc, selon la façon dont il la préparait, elle avait le goût de l'huile fraîche. Psaume 78. Psaume 78, qui nous amène à une autre leçon, au verset 24. Il ne croit pas en Dieu et ne se fie pas à son salut. Croire au salut de Dieu, je vais juste ajouter cette pensée, c'est quelque chose de quotidien. Ce n'est pas un objectif lointain et noble que nous avons. Non, c'est quelque chose que nous devons faire chaque jour. Nous devons croire au salut de Dieu chaque jour. Oui, je crois que Dieu viendra et nous donnera le salut ultime, la vie éternelle, mais je veux croire en son salut chaque jour, en sa délivrance chaque jour, en sa provision chaque jour. Je veux compter sur lui et lui faire confiance aujourd'hui et demain. Bien qu'il eût commandé aux nuages d'en haut, et ouvert les portes du ciel, et fait pleuvoir sur eux de la manne pour les nourrir, et leur eût donné le grain du ciel. Le grain du ciel. Oh, j'ai récemment mangé un épi de maïs préparé avec, il était grillé sur un barbecue, et il y avait plein de sauce dessus. C'était absolument délicieux. Le maïs est l'un de mes légumes préférés, l'un de mes fruits préférés, etc. J'aime le riz avec du maïs. Demandez à ma femme. J'ai envie de varier un peu les plaisirs et de passer un excellent jeudi. Ajoutez du maïs dans ce riz. C'est absolument délicieux. Mais le texte continue, l'homme a mangé la nourriture des anges. Maintenant, pensez à combien de temps les anges ont vécu avant nous, ou ont existé avant nous, et qu'ils ont mangé depuis longtemps. Et c'était la nourriture des anges. Des gaufrettes à base de miel, d'huile fraîche et de maïs du paradis. La nourriture des anges. Des descriptions puissantes de ce qui devait être délicieux. Il existe une loi dans le monde des affaires appelée la loi du rendement décroissant. La première fois que vous allez dans un restaurant, c'est le meilleur restaurant où vous soyez jamais allé. Absolument fabuleux. La deuxième fois, vous vous dites, « Oh, ce n'était pas aussi bon que la dernière fois, mais c'était très bien. » La troisième fois, vous vous dites, « C'est bien, oui, c'est plutôt bon. » Et la quatrième fois, vous cherchez un autre restaurant. C'est ce qu'on appelle la loi du rendement décroissant. Plus vous y retournez, moins vous avez envie d'y retourner. C'est une loi qui s'applique à toutes les entreprises. C'est pourquoi elles essaient de renouveler leur menu et de faire de la publicité, parce qu'elles veulent que vous reveniez. Et même si je ne peux pas le prouver, soyons honnêtes, la manne a probablement été le premier aliment dont les gens se sont lassés sur Terre. Et on parle de la nourriture des anges. Jour après jour, toujours la même chose. Vous connaissez cette sensation. Si vous avez déjà mangé du poulet plusieurs fois, soir après soir, jour après jour. Imaginons donc quelques plats qu'ils ont pu essayer pour rendre les choses intéressantes et agréables. Voici une liste d'idées. Ragoût de manne, casserole de manne, médaillon de manne rôti, manaron au fromage, bouchée de manne glacée au miel, boulettes de manne, comme des boulettes de viande, mais en mieux. Manne frite croustillante, crêpe à la manne, surprise à la manne. La surprise, c'est la manne. Salade de reste de manne, manne en brochette. Et si vous êtes vraiment désespéré, de la manne crue, parce que vous avez tout simplement abandonné. Je vais revenir à la manne crue. Les enfants, le dîner est prêt. Devinez ce qu'il y a au menu? Lasagne à la manne. Si Uber Eats avait existé, la plupart des Israéliens s'y seraient abonnés. Proverbe 15. Je m'égare. Nous sommes toujours en train de construire une leçon puissante ici. Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec la discorde. Mieux vaut un repas d'herbe où il y a l'amour qu'un bœuf engraissé et rempli de sang. Un gros steak juteux. Et la haine. Je suis allé manger un steak l'autre jour. Vous savez ce qui a rendu ce repas merveilleux? La compagnie qui m'accompagnait. J'ai apprécié le steak, mais j'ai adoré la compagnie. Leçon numéro 4. Peu importe qu'elle soit petite ou ordinaire, Dieu veut que nous considérions les choses qu'il nous donne chaque jour comme des cadeaux dont nous devons profiter. Ecclésiaste, chapitre 3. Pas besoin d'aller loin. Voilà. Ecclésiaste, chapitre 3. Peu importe qu'elle soit petite ou ordinaire, Dieu veut que nous considérions les choses qu'il nous donne chaque jour comme des cadeaux dont nous devons profiter. Ecclésiaste 3, verset 12. Commençant par les plus petites choses. Je sais qu'il n'y a rien de bon en elles, si ce n'est pour l'homme de se réjouir et de faire le bien pendant sa vie. Il le sait. Mais je sais aussi ceci, verset 13, que tout homme mange et boive et jouisse du bien de tout son travail. Pourquoi? C'est un don de Dieu. Si nous croyons cela, alors nous comprenons ce que nous dit l'apôtre Jacques. Tout don parfait, qui comprend la nourriture, la boisson, le travail, les parents, les enfants, les frères, les amitiés, rien de tout cela n'est parfait, car il utilise ici deux termes. Parfait. Tout don parfait. Pas parfait. Et cela inclut la nourriture et la boisson, les parents et les enfants, les frères, les amitiés. Rien de tout cela n'est parfait, mes frères. Mais Jacques, l'apôtre Jacques, nous encourage à voir cela comme une bonne chose, comme un don, un bon don de Dieu. Mais il poursuit en disant que tout don parfait, comme Christ, l'Esprit de Dieu, son plan, sa volonté pour nous, tout cela vient du Père des Lumières. Il y a de bons dons et il y a des dons parfaits. Et si nous apprenons à apprécier et à profiter des dons que Dieu nous donne et des petites choses, combien plus apprécierons-nous les plus grandes? Nous devons donc profiter même des éléments fondamentaux de la vie, de la part que Dieu nous donne chaque jour, à commencer par la nourriture que nous mangeons et les choses que nous buvons, les boissons que nous buvons. Réfléchissez-y. J'apprécie le même repas. J'apprécie un repas plus qu'un autre. S'ils sont préparés exactement de la même manière, si je sais qu'ils ont été préparés par ma mère, ma femme ou ma belle-mère, plutôt que par un chef dans un restaurant. Pourquoi? Parce qu'ils proviennent de personnes qui, je le sais, tiennent profondément à moi. Mais j'apprécie tous les repas, y compris ceux préparés par le chef, à l'exception peut-être des premiers repas de notre mariage. Attendez une seconde. Cela était difficile. Elle apprenait, tout comme moi. Mais j'apprécie presque tous les repas parce que je sais, grâce à elle, que tout vient de Dieu et que Dieu prête attention à la façon dont nous percevons les petites choses de la vie quotidienne. La façon dont nous percevons notre mariage. Bon, pas parfait. Les enfants, le travail, les cours, les trajets quotidiens pour aller au travail ou à l'école, les offices du sabbat, les événements religieux. Rien de tout cela n'est parfait. Ce sont de beaux cadeaux. Les apprécions-nous comme nous le devrions? Trouvons-nous des moyens d'en profiter? Que faisons-nous dans notre mariage pour qu'il soit nouveau et frais chaque jour? Je me réveille chaque matin depuis 33 ans à côté de la même femme, et je ne m'en lasse pas. Elle pense peut-être que c'est toujours la même chose. Je ne pense pas qu'elle le pense. Elle secoue la tête. Je suis tranquille. Mais Dieu nous a ouvert les yeux pour que nous apprécions notre mariage plus que nous n'aurions jamais pu le faire sans lui. Mes frères, penchez-vous sur votre vie et sur les choses ordinaires de tous les jours. Dieu vous les a données pour que vous appreniez à les apprécier comme des cadeaux de sa part. Je me souviens, à Noël et à mon anniversaire, parfois, quand on ouvrait les paquets, on était tout excité, et c'était une paire de chaussettes, un pull, une chemise ou un pantalon. À l'époque, je n'appréciais pas ces cadeaux de mes parents, mais ils me donnaient ce dont j'avais besoin, pas ce que je voulais. Et c'est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir de Dieu, mes frères. Ce dont nous avons besoin. Bien sûr, il nous donnera ce que notre cœur désire, mais les plus beaux cadeaux sont ceux dont nous avons besoin, petits ou grands. Et vous savez ce que j'ai compris d'autre? Le plus beau cadeau que j'ai reçu à Noël ou à mon anniversaire était juste devant moi. Les plus beaux cadeaux que j'ai reçus dans mon enfance étaient mes parents. Le plus beau cadeau que nous ayons, mes frères, c'est Dieu dans nos vies. Ces cadeaux nous aident à le comprendre. Réfléchissez-y. Les Israélites observaient le sabbat pendant leur voyage. Ils observaient les nouvelles lunes et les jours saints pendant 40 ans, 39, 40 ans, et ainsi de suite. Je ne lis nulle part. Je ne dis pas que cela n'existe pas, mais je ne lis nulle part qu'ils se plaignaient de se reposer le jour du sabbat. Je ne lis nulle part qu'ils se plaignaient d'observer les nouvelles lunes et les jours saints. Ils ont cessé de les observer parce qu'ils ont laissé le monde les influencer, mais pendant qu'ils les observaient, je ne lis pas grand-chose à ce sujet. Je ne le vois pas. Il y a peut-être quelque part, mais ils ne s'en sont pas pleins. Ils se plaignaient de la manne et du fait de devoir la ramasser chaque jour et la manger chaque jour. Les Israélites se sont lassés de vivre au jour le jour comme Dieu le voulait. C'est cela le problème. Ils se sont lassés de leur voyage sous la conduite de Dieu et de Moïse. L'Égypte, l'esclavage, la vie sous le règne du Pharaon, tout cela continuait de les attirer parce qu'ils n'avaient pas appris à apprécier les petites choses qu'ils avaient reçues de Dieu. Ils auraient volontiers repris leur routine. Nous voyons cela se produire dans l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas différent. Malgré les miracles et la seule véritable Église de Dieu, malgré les signes et les prodiges, malgré les victoires que Dieu accorde aux gens, je vois cela arriver à d'autres. D'autres le voient m'arriver. Arriver à la terre promise, une terre où coule le lait et le miel, le royaume, leur prenait trop de temps. Ce n'était pas un problème lié au fait que le royaume arrivait plus tard qu'ils ne l'avaient prévu ou pensé. Savez-vous quelle était la source de leur mécontentement? Leur mécontentement profond venait du fait qu'ils détestaient le pain léger qu'ils devaient manger tous les jours. C'est là que tout a commencé. C'est de là que tout est parti. Les petites choses de la routine quotidienne. Ils les détestaient. Passons au chapitre 21 du livre des Nombres. Le chapitre 21. J'y arrive dans un instant. Verset 5. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert? Il n'y a ni pain ni eau, et notre âme, notre vie, a horreur de ce pain. Mes frères, tout a commencé parce qu'ils n'ont pas appris à apprécier le plus grand cadeau que Dieu pouvait leur faire. Encore une fois, les choses dont nous avons besoin. Savez-vous ce dont nous avons le plus besoin? Je l'ai déjà dit. Dieu. Mais si nous ne pouvons pas voir les dons de Dieu comme quelque chose dont nous pouvons profiter chaque jour, comment pouvons-nous ressentir la même chose pour Dieu lui-même? Tout commence par de petites choses. Israël n'a pas compris cela. Nous pouvons tous passer à côté de l'essentiel. Ils n'avaient pas autant besoin de la manne dans leur vie que de Dieu. Qu'ils en aient été conscients ou non, ils ont méprisé et rejeté non seulement la manne, mais aussi Dieu et son mode de vie, et ils se sont lassés et ont voulu abandonner, ou se rebeller. Telle est l'histoire d'Israël. Mes frères, il ne peut en être ainsi pour nous. Comment pouvons-nous nous prémunir, nous protéger contre la lassitude ou l'ennui face à ce mode de vie? Voyez et appréciez tout ce que Dieu nous donne comme un cadeau de sa part, tant les bonnes choses que les parfaites. Revenons à Exode 16 pour la dernière leçon, qui est, je pense, la plus importante. Il y a beaucoup d'autres leçons, mes frères. Je vous encourage à les découvrir. Si vous méditez sur ce seul chapitre, vous vous direz, oh là là, comme on peut apprendre beaucoup. Exode 16, verset 11. L'Éternel parla à Moïse, et dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, ce soir, vous mangerez de la viande, et demain matin, vous serez rassasiés de pain la manne, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Plus grand que l'obéissance, qui est un sous-produit de ce que je vais dire, plus grand que le fait d'apprécier les petites choses, plus grand que le fait de compter et de faire confiance, tout commence ici, mes frères. La plus grande leçon à tirer de la manne, c'est que Dieu utilise souvent des choses apparemment ordinaires et quotidiennes pour nous montrer qu'il est notre Dieu. Quelle leçon plus puissante pourrions-nous avoir? C'est le fondement de toutes les autres leçons que nous avons abordées aujourd'hui et vous pouvez en tirer encore plus. Dieu utilise souvent des choses apparemment ordinaires et quotidiennes pour nous montrer qu'il est notre Dieu. Dieu s'est révélé à Israël comme leur Dieu en utilisant la manne. Dieu s'est révélé à nous et continue de le faire de manière similaire. Passons à Jean 6. Jean 6, alors que nous arrivons à la fin. Donc, après plus de 1200 ans, ce que nous allons lire, Israël ne s'est pas amélioré. Ils n'avaient ni cœur, ni yeux, ni oreilles pour voir Dieu se révéler à travers le pain. Dans les versets 1 à 21, nous n'aurons pas le temps de lire cela. Christ a nourri une grande multitude avec seulement une petite quantité de nourriture au départ. Christ savait que quelque chose de grand se cachait derrière ces quelques pains et poissons. Il n'a pas méprisé les petites choses que Dieu lui a données ce jour-là. Il comptait sur cela et il faisait confiance à Dieu pour ce qui allait se passer dans un avenir très proche. 2 poissons et 5 pains d'orge. Le lendemain, au verset 22, les gens recherchent Jésus et entament une conversation avec lui. Reprenons au verset 30. Ils lui dirent donc, « Quel signe fais-tu donc, afin que nous voyions et croyions ? Que fais-tu ? » Et voici la réponse. « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Comme il est écrit, il leur a donné du pain du ciel. Voilà. Mais mon Père donne du ciel pour manger. » Verset 32. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Pentateux. Continuellement. Toujours. Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr d'être prêt pour chaque jour, jour après jour, la même chose? Eh bien, voilà. Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Oui, Dieu a envoyé du pain du ciel pour se révéler à Israël, mais il s'est également révélé à nous en envoyant Jésus-Christ. Il est intéressant de noter, je ne sais pas combien d'entre vous le savent, que nous savons que Jésus est né à Bethléem. Ce mot Bethléem signifie en hébreu « maison du pain ». Et comment Jésus s'est-il révélé? Il a nourri des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. C'était le prélude à la révélation de Jésus comme pain de vie. Mes frères, si nous pouvons apprendre beaucoup de la manne, le pain venu du ciel, nous devons tout apprendre du pain de vie, Jésus-Christ. Dieu a enseigné chaque jour à Christ, petit à petit, à lui obéir dans les petites choses. Christ a appris à compter sur son Père et à lui faire confiance quotidiennement dans les choses apparemment ordinaires et routinières, y compris ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait, sa famille, son travail aux côtés de son Père, son ministère, son appel, son attention pour ses disciples. Dieu a enseigné à Christ à apprécier et à aimer même les plus petites choses, vous et moi, parce qu'elles étaient bonnes, pas parfaites, des dons venus d'en haut. Mes frères, nous devons faire de même. Si nous n'apprenons pas à appliquer les leçons de la manne, le pain venu du ciel, si nous échouons dans notre vie, dans les petites choses ordinaires et routinières, nous rejetons, pire encore, les exemples du pain de vie, Jésus-Christ. Mes frères, l'histoire de la manne, le pain venu du ciel, qui s'est déroulée pendant 40 ans, est fascinante. Oui, mais pas aussi fascinante que les leçons que nous en tirons. Comme nous l'avons vu, de puissantes leçons peuvent être tirées de petites choses apparemment ordinaires et routinières de notre vie, aussi simples que de ramasser et de manger la portion de manne que Dieu nous donne chaque jour. Oui, Dieu nous a donné ses commandements, ses statuts et ses jugements pour nous transformer comme il avait l'intention de le faire avec Israël. Bien sûr, nous avons le sabbat, les nouvelles lunes, les jours saints, mais mes frères, Dieu utilise des choses apparemment sans importance, quotidiennes et routinières, avec des instructions simples à suivre chaque jour. Sommes-nous prêts à recueillir, à manger et à apprendre de la ration quotidienne de Dieu aussi longtemps qu'il le faudra,